C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
L'histoire, l'histoire avec un grand I, regorge d'aventures plus rocambolesques les unes que les autres. Et parmi elles, trouve-t-on peut-être en tête de podium toutes celles concernant des trésors et des œuvres d'art, leurs recherches, leurs convoitises, leurs vols. Regardons de plus près aujourd'hui le mystérieux clan Remnau, qui sévirait en Allemagne, volant musée après musée, œuvre d'art après œuvre d'art, trésor après trésor, sans être réellement inquiété. Dernier fait d'armes pour ce mystérieux groupe, le vol du trésor d'Auguste Faure à Dresde, pour une valeur de plus de 113 millions d'euros. Pour enquêter avec nous sur ces vols et les œuvres disparues, la fine équipe de l'histoire avec un grand I. Bonjour Thierry Lafleur.
Bonjour.
Bonjour Alexandre Blin.
Bien le bonjour.
Bonjour Bastien Arnaud.
Bonjour, bonjour.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors, première question pour vous, messieurs. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne ? Quelles sont ces œuvres qui sont volées et est-ce qu'on peut résumer cette affaire ?
Alors, cette affaire, déjà, on peut se replacer dans le contexte historique, puisque voilà, pour placer les gens qui ne connaissent pas le clan Remnau, on est fin du 19e siècle, début du 20e siècle, donc voilà. Et c'est à ce moment-là, finalement, en Allemagne, que les trésors commencent à disparaître petit à petit, et finalement, le clan Remnau, finalement, ne va revendiquer les vols qu'à partir de 1892. Pas avant, alors que déjà, ils avaient un très bon palmarès.
Très bon palmarès. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de propriétaire des œuvres estimées ? Enfin, on n'a toujours pas la preuve, hein, mais des œuvres qui auraient disparu depuis ce temps-là.
Bien sûr. Le collier en plume de Yvan Lachaud.
Yvan Lachaud, tout à fait.
Un magnifique collier en plume d'une valeur de 60 millions d'euros.
Il était gardé où, ce collier ?
Il était gardé en haut, finalement, de la tour Lachaud.
Oui.
Et voilà, tout en haut de la tour Lachaud. Et finalement, ils ont réussi à s'introduire dans cette tour qui était très bien gardée. Mais voilà, ça, c'était un parmi tant d'autres. Enfin, il y avait les souliers dorés. Non, juste les souliers dorés.
Ils appartenaient à personne.
Appartenu à personne. Et c'était justement ça, la caractéristique de ces souliers dorés.
On jamais retrouvé le propriétaire.
Justement, enfin, les gens ont commencé à l'appeler les souliers dorés du clan Remnau, parce qu'ils les ont sûrement portés, c'est sûr.
Même le musée des Beaux-Arts de Berlin a été pris pour cible, avec ce magnifique tableau de Monet, les pigeons. Oui. Incroyable. Valeur estimée à 12 500 000, il me semble.
Aujourd'hui, oui.
Ouais, aujourd'hui.
S'il était retrouvé, ce serait la valeur qu'il aurait.
Ouais, incroyable.
Il est un peu moins cher que le pigeon.
Ah bah oui.
De Monet. Monet.
Ah oui, oui.
Le pigeon, pardon, qui n'a jamais été volé.
Non, lui, non.
Du moins, pas encore.
Pas encore.
Est-ce qu'on sait à peu près estimer le nombre d'œuvres qui seraient impactées par cette série de vols ?
12 000 vols. Après, moi, je vous parle justement de cette période, du clan Remnau tel qu'on le connaissait, avec ses membres actifs à l'époque qu'on connaît aujourd'hui historiquement. Mais aujourd'hui, il y a quand même des rumeurs, hein, on en parle souvent dans la presse, comme quoi le clan Remnau serait toujours actif et qu'il y aurait justement pas des descendants directs, mais des gens qui feraient vivre finalement le clan Remnau encore aujourd'hui.
Tout à fait, dont le dernier vol du trésor d'Auguste Lefort. Donc 12 000 œuvres, ça fait un paquet d'œuvres à stocker. Comment est-ce qu'on explique qu'on ne les ait pas retrouvées ? Parce qu'on se dit qu'il faut un sacré hangar ou entrepôt pour stocker tout ça. Ça doit se repérer quand même.
Alors, tout n'est pas stocké par eux. En fait, il y a beaucoup de reventes. Ils revendent au marché noir beaucoup d'œuvres beaucoup plus chères en fait, que l'estimation du prix dans le musée. Et donc, en fait, ils arrivent à s'en débarrasser assez vite. Pour les œuvres les moins chères. Les plus chères, par contre, oui, en effet, ils les gardent. Et en fait, il est dit en fait, qu'ils les présentent dans leur villa en guise de trophée.
Donc on a quand même une petite idée de leur mode opératoire, de leur fonctionnement. Et est-ce qu'on a à peu près une petite idée de qui est-ce qu'on trouve dans ce clan ?
Ben oui, on a fini par le savoir, justement. Donc, ils étaient quatre, le clan Remnau.
Quatre personnes.
Quatre hommes et femmes issus d'un milieu modeste, finalement, en Allemagne. Ils n'étaient pas... un peu des personnes sans histoire, finalement, mais qui se sont retrouvés autour d'une passion commune pour le cambriolage et les vols.
Une passion déclarée comment ? Comment est-ce qu'on se retrouve autour de cette passion dans la vie ?
Alors, c'est parti d'une petite association, en fait, de serruriers. Ils se rassemblaient tous les dimanches après-midi pour parler serrure, pour voir un petit peu les différentes techniques de crochetage, de comment installer des serrures. Et en fait, cette petite association a pris beaucoup d'ampleur parce que leur passion est devenue très forte.
C'est le jour où Berthe, Berthe Remneau, a perdu son travail. Ça se passe le 16 décembre 1889. Berthe Remneau perd son travail. Elle se rend dans le petit quartier, enfin dans le petit QG de l'association de serruriers qu'ils fréquentent tous. Et elle décide elle a l'idée de mettre à profit cette compétence de crochetage. Et elle propose aux autres membres de l'association de faire leur premier vol.
Et les autres membres disent oui sans.
À ce moment-là, en fait, c'est déjà Berthe qui a le lead de ce groupe finalement. Oui. C'est elle qui organise tout le temps les réunions des serruriers. Donc
elle est présidente de l'association.
Elle est présidente de l'association et les trois hommes qui l'accompagnent sont admiratifs et amoureux complètement de Berthe. Donc voilà, il y a toute une histoire où Berthe finalement les fait languir. Elle est très consciente de ce qui est en train de se passer. Et donc finalement, voilà, ces trois hommes qui sont là pour elle, qui sont Fred, Ulrich et Franck.
Ulrich, j'ai toujours du mal à le prononcer.
Oui, c'est très bizarre. Comment Ulrich.
Vous l'écrivez comment ? U-R-L-C-H-K.
Ulrich.
U-R-L-C-H-K.
Ulrich.
Ulrich. Voilà, Ulrich. Fred, Ulrich
et Franck.
Voilà, qui sont totalement amoureux de Berthe et qui finalement seraient prêts à tout pour elle.
Alors, Ulrich. Vous évoquez une sorte d'histoire d'amour. Là, c'est assez rare en fait dans l'histoire avec un grand I qu'on parle d'histoire d'amour. Donc, on a ces trois personnages qui sont amoureux de Berthe et dans la même association. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il n'y a pas des rivalités dans ce clan à cause de ça ?
C'est vrai qu'il y a quelques rivalités. On est sous une association loi 1901. En fait, les gens se battent pour la place de trésorier et secrétaire.
Oui, loi 1901, dès 1901, parce qu'en effet, le clan Remneau existe avant. Enfin, ils ont déjà leur petit gang, en fait. Ils ont déjà plusieurs vols à leur actif. Oui. Mais finalement, dès que ça va être possible, en 1901, ils vont créer leur association. Ils voient finalement le filon. Ils se disent, mais oui, exactement, c'est ça qu'il faut faire. Mmh.
Quel est le bénéfice pour ce clan de fonder une association ? Est-ce qu'il y a une niche fiscale ou
D'être dédouané de la TVA, quoi.
Dédouané de la TVA sur les vols.
Classique association.
Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça réalise pour un gang de voleurs serruriers à l'époque d'être dédouané de la TVA. C'est monumental. En fait, c'est ça qui va faire qu'ils vont finalement exploser et qu'ils vont devenir le plus grand gang de voleurs de l'Allemagne.
Ils utilisent même l'association pour blanchir leur argent. Enfin, c'était vraiment le statut idéal à l'époque.
Ouais.
Donc, une association statut idéal pour les voleurs serruriers. Donc, quel est ce premier vol qui va en fait définir tout le reste de leur histoire à ce clan ?
Alors, selon les historiens, vous me dites si je me trompe, hein, mais dans les textes qui est dit, c'est que le tout premier vol n'est pas un gros vol. Il faut que Berthe rassemble tout le monde et que tout le monde soit d'accord. Même si elle a des prétendants, il faut que ce soit un petit vol.
Donc c'est littéralement un vol de poules.
Exactement.
Littéralement.
Un vol de poules, mais des poules qui sont enfermées.
Oui.
Parce qu'il y a quand même le côté serrure qu'il fallait qu'il soit attractif.
Oui. Sans serrure, le clan Remneau n'avait aucune raison d'aller cambrioler quoi que ce soit. Ils étaient vraiment rassemblés autour de cette passion qui était la serrurerie. Et...
Oui.
Voilà. Tout vol qui est impliqué...
Ce serait ennuyé sans...
Oui, totalement.
Sans serrure.
Et d'ailleurs, ça a été une façon de contrer le clan Remneau par la suite.
De mettre des...
De ne pas mettre de serrure, de ne pas mettre de porte, de juste laisser les œuvres comme ça, à la vue de tous.
Oui,
en fait, le clan Remneau ne venait jamais voler ses œuvres.
Il y a encore beaucoup de collectionneurs qui ne mettent pas de serrure dans leur propriété. Hein.
C'est presque devenu une... Comment dire,
une
croyance.
Oui, c'est une croyance. Oui, une croyance.
La superstition, parce que, comme on l'a dit, le clan Remneau aujourd'hui, il existe, il n'existe pas. On ne sait pas.
On ne sait pas.
Enfin, je connais vos croyances, Alexandre. Mais...
Moi, je ne pense pas qu'ils existent. Je pense que c'est terminé avec...
Vous, Bastien, vous pensez qu'ils...
Bah oui, quand même. Il y a quand même des faits qui sont...
Et vous,
qui argumentent
vous,
que...
Vous êtes fait cambrioler, vous, Bastien.
Oui, c'est vrai que je me suis fait cambrioler il y a deux mois. Et vous
faites...
Je suis encore un peu sous le coup de l'émotion, j'avoue. Mais...
Voilà, c'est ça. Mais ça n'a rien à voir
avec... Vous avez été volé de quoi ?
Chez moi, c'est mon... mon écran plasma et mon ordinateur portable.
Mais voilà, mais jamais le clan Remnon n'aurait volé ça, ça n'a aucun sens, Bastien. Arrêtez de... Voilà.
Vous avez raison.
Un banal cambriolage.
Ça se comprend, par contre, ça se comprend. On peut comprendre qu'après, on soit, voilà, on soit sur les nerfs.
Est-ce que vous avez une porte avec une serrure?
En effet, il y avait une serrure.
Mais ça veut rien dire, toi. Enfin, Bastien.
Faut aller de l'avant.
Donc, allez. Revenons à notre vol de poule, si vous voulez bien. Est-ce que ce vol fonctionne?
Parfaitement bien. Ils vont repartir avec deux poules.
Deux poules.
Et c'est exactement ce qui était prévu. Donc tout se passe très bien et en fait, finalement, le clan Remnon va se sentir pousser des ailes à la suite de ce vol de poule.
Oui. Et... avec ses premières omelettes qui peuvent se faire maintenant le soir avec, à l'association grâce à leurs deux poules.
Voilà, les poules qui vont rester à la villa jusqu'à la mort de Père Remnon.
C'est ça. Ils vont monter des plus gros coups, effectivement. Le supermarché local de Dresde. Qui sera déjà un coup un peu plus gros, parce que là ils vont
voler tous les œufs.
Oui, ils vont voler supermarché.
Tous les œufs. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire des cambriolages de supermarché.
Non.
Et les œufs, c'est fragile. Il faut les transporter. ils ne briseront aucun œuf durant ce cambriolage.
Il y en avait combien?
Allez dire combien il y avait d'œufs dans le supermarché à Dresde.
Personne n'a compté, mais.
En 1894. Franchement, mais c'était une quantité colossale. Il fallait nourrir tout Dresde. C'était les œufs pour tout Dresde. Enfin,
oui, un seul supermarché. Donc, ouais, peut-être.
Des milliers d'œufs, forcément.
Mais qu'est-ce qu'on fait avec des milliers d'œufs?
Des omelettes.
Très bien.
Et puis, l'association faisait tous les mois, le samedi après-midi, des goûters.
Ah.
En fait, ça permettait à faire des gâteaux aussi pour l'association.
Très bien. Donc, une association, finalement, qui se concentre d'abord sur du vol alimentaire,
oui.
On va dire, toujours avec des serrures. Qu'est-ce qui explique qu'à un moment, l'association change de plan et s'attaque à des œuvres d'art?
En fait, c'est pas tant des œuvres d'art, mais comme vous l'avez dit en début d'émission, c'est plutôt des trésors.
Des trésors.
Voilà, c'est des trésors. C'est-à-dire qu'on va être en recherche de trésors et de monnaie d'échange qui pourrait servir pour un trésor en particulier. Un trésor que l'association va chercher durant toute son existence, c'est la fameuse poule aux œufs d'or.
La fameuse poule aux œufs d'or, on y revient juste après la pause musicale.
Une richesse qui dort dans le cœur des enfants mal aimés.
Michel Rivard, libérer le trésor, et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I. On s'était quitté en introduisant cet élément très important pour le clan, qui est la recherche de la poule aux œufs d'or. Est-ce que vous pouvez en dire plus ?
Oui, bien sûr. À cette époque, il y a une croyance, un homme, Olg Newman, prétend avoir en sa possession une poule qui pond des œufs en or. Donc c'est un anonyme dont on sait uniquement le nom, mais dont on ne sait pas du tout le reste de l'identité. C'est pour ça que je dis qu'il est anonyme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où il habite, ce qu'il fait dans la vie, voilà, etc. Cet homme, en fait, par le biais des journaux, prétend avoir une poule qui pond des œufs d'or et dit qu'il est prêt à l'échanger. Contre la plus grosse proposition, et qu'il demande à ce qu'on lui fasse des propositions.
Donc, à travers tout ça, à travers des échanges de journaux, on parle à travers la presse, en fait, oui. Pour s'échanger la poule.
Le Olg Newman fait une annonce dans la presse.
Fait une annonce,
dans les petites annonces, voilà. Vraiment,
est-ce que c'est quelque chose de courant pour l'époque ?
C'est courant de faire des petites annonces. Cette annonce-là en particulier va vraiment défrayer la chronique. Enfin, les gens vont. Ça va faire rire finalement parce qu'on pense à une blague. Beaucoup pensent à une blague.
Mais pas Berthe.
Pas Berthe.
Faut savoir, on est au début du XXe siècle. Les Allemands lisent les petites annonces comme les Français à l'époque. Hein. C'est monnaie courante, quoi. On lit les annonces et. C'est des petites annonces de carrioles, de chaussures, enfin il y a vraiment tout quoi. Alors que là, une poule aux œufs d'or, ça fait rire, ça fait la blague.
Ça fait la blague, mais une personne décide de prendre cette annonce au premier degré. Oui. Et du coup, c'est Berthe qui va orienter toutes les recherches du clan à la recherche de cette poule, si je comprends bien.
En fait, non, c'est pas forcément la recherche de sa pose. Et comme on l'avait dit, elle va rechercher des trésors équivalents finalement.
Pour l'échange.
Voilà, parce qu'elle veut respecter le deal finalement qui a été posé par Newman. Et donc, par la suite, finalement, il y aura ces petites annonces qui vont suivre. Et c'est à ça que le clan Remno finalement va se faire connaître. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un trésor de grande ampleur sera volé, dans la semaine qui suit, vous retrouviez une petite annonce qui disait échange. Telle œuvre contre poule aux œufs d'or, anonyme. Et du coup, on s'est mis à découvrir l'existence de ce clan de voleurs.
Donc quelque part, c'est pratique pour les historiens parce qu'il y a vraiment
la trace
des 12 000 œuvres qui ont été volées pour tenter cet échange.
Après, dans les 12 000, toutes n'étaient pas de grande valeur, toutes n'étaient pas des trésors. Dans les 12 000, il y a les milliers d'œufs dont on parlait tout à l'heure. Donc au final, ce n'est pas tant que ça d'œuvres finalement qui ont été dérobées.
Ça fait 11 000.
Mais quand c'était des vrais trésors, quand c'était des choses vraiment de valeur qui pouvaient être justement... qui pouvaient être échangées contre l'existence, contre une poule aux œufs d'or si elle existe. Donc voilà, Berthe, elle ne sélectionnait que les meilleurs trésors pour les mettre dans les petites annonces.
Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de comment s'y prend Berthe et quel type d'œuvre elle va chercher pour échanger contre cette poule ?
Au départ, elle cherche pas très loin. Elle se dit, bon, bah, une poule aux œufs d'or, ça va pas valoir si cher que ça. Du coup, elle s'attaque au musée du coin. Au petit musée du coin, avec vraiment des choses préhistoriques, quoi. Donc, ça va être des os, ça va être des éléments assez vieux qui n'ont pas trop, beaucoup de valeur, mais pour un historien, ça en a quand même beaucoup, parce que ça a été récupéré, a été nettoyé. Et,
un os de dinosaure, quand même.
Ouais, c'est incroyable, ça, un os de dinosaure. Et du coup, justement, sa cinquième œuvre, il me semble, c'était un fémur de T-Rex. Et donc elle le met directement sur la petite annonce, fémur de T-Rex contre poule aux œufs d'or.
Voilà. Ce qui est fou, c'est que la police ne s'alerte pas plus que ça. En fait, les gens rient de ces petites annonces, on se dit, un fémur de T-Rex, qui a ça, qui possède ce genre de choses. On ne fait pas le lien avec les vols au musée d'art naturel. Et de...
Jusqu'au jour où justement le T-Rex tombe au muséum d'histoire naturelle.
C'est vrai.
Et c'est là où on se rend compte que, ah oui, en effet, le fémur du T-Rex a été volé.
Oui.
Mais avant ça, voilà. Et en fait, petit à petit, voilà, on se rend compte qu'il y a un clan qui vole des trésors et qui non seulement après les poste dans les petites annonces pour échanger contre la poule aux œufs d'or. Alors bien sûr, il y a eu plein de tentatives de la police qui ont essayé de répondre à cette annonce, aux adresses et aux boîtes postales qui, bien sûr, ne menaient nulle part, parce que Berthe était très prudente et elle faisait en sorte de guetter l'arrivée des forces de l'ordre et de reconnaître un homme qui pourrait être Newman. Mais voilà, elle était très prudente et elle faisait en sorte d'attirer l'attention de Newman au maximum.
Une fois le clan dévoilé, que ce soit les directeurs de musée ou même les collectionneurs, ont commencé à prendre la chose au sérieux. Et du coup, on commençait à prendre peur quand la somme des objets commençait à grossir. Et ils se sont dit, oulala, peut-être que là, ils vont peut-être venir toquer chez moi pour prendre une œuvre encore plus de grande valeur. Et là, ils ont commencé à mettre des plus grosses serrures.
Mais ce qui n'a fait qu'attiser le feu, finalement. Mais ça n'a fait que, voilà. Enfin, le clan, c'est directement, d'ailleurs, dès que les serrures ont été installées, dès la semaine d'après, terminé.
Le nombre de vols a complètement explosé.
Complètement explosé. Et là, le métier de serrurier est vraiment à monter en flèche. Les gens, du coup...
Avant de redescendre, suite à la croyance de...
Oui.
C'est ça. En fait, les gens ont commencé à faire des études et ça a à peine commencé qu'ils les ont arrêtés. Parce que...
Il y avait une sorte de compétition de qui créera la serrure qui bloquera le clan Remno, finalement. Qui créera la serrure qui bloquera Berthe. Et vraiment, c'était une compétition à l'époque. Vraiment, c'était impressionnant. Vraiment, on avait des serrures monumentales qui protégeaient les œuvres d'art. Et les plus grosses serrures, d'ailleurs, on peut en parler, ça va être pour les œufs de Fabergé. Parce que assez rapidement, les propriétaires d'œufs de Fabergé
se sont rendus compte,
ils ont fait le lien. Poule aux œufs d'or, œufs de Fabergé, ils se sont dit, mais en fait, c'est nos œufs qu'ils veulent. Et alors là, les plus grosses serrures vont être installées pour protéger les œufs de Fabergé.
On n'a jamais vu d'aussi grandes serrures, des serrures de toutes les formes, en forme de poule. Je me souviens, à Saint-Pétersbourg, il y a un énorme coffre. J'y suis allé encore il y a 3 ans.
Vous aviez posté des photos. Ouais.
Oui, tout à fait. Et c'est exposé au musée. C'est une serrure gigantesque en forme de poule.
Qui était censée narguer le clan Remno.
Oui, bien sûr. En disant, celui-là, vous ne l'ouvrirez jamais. Regardez, c'est votre idéal quoi, comme coffre. Et ils l'ont réussi.
Ils l'ont ouvert.
Elle avait quoi de particulière, outre sa taille, cette serrure ?
Elle était jaune, elle était peinte en jaune. Et il fallait un système de 3 clés différentes pour l'ouvrir, qu'on associait. Enfin, c'était très, très...
Quand on essayait de forcer la serrure, des codes de poule retentissaient dans le musée. Oui.
C'était la première alarme.
Oui,
toute première alarme, oui. Il y avait des vraies poules, d'ailleurs.
Enfermées dans des cages.
Pour faire le bruit.
Si on essayait de forcer la serrure, ça venait poquer les poules avec des petits vérins, en fait.
Alors là, ce que vous ne voyez pas en tant qu'auditeur et auditrice, c'est Thierry Lafleur qui est en train de montrer
avec mes doigts, en fait. Voilà, que ça venait poquer les poules qui étaient endormies ou qui étaient calmes, en train de vivre leur vie de poule. Et du coup, lorsqu'on poquait les poules comme ça, avec des petits vérins hydrauliques, en fait, ça les faisait s'activer et ça les faisait réagir.
La basse-cour se réveillait.
Voilà,
vraiment, vous le faites très bien. Moi, je l'ai vu il y a quelques années. C'est exactement ça qu'il y avait.
Voilà, comme ça poque les poules.
Donc là, on a un exemple de ce que la société va essayer de mettre en place pour ralentir ces vols, et pourtant, ça ne marche pas. Comment cette histoire avance? Et on parle aujourd'hui du fait qu'on ne sait pas si le clan existe ou pas. Est-ce que, côté historique, on sait dire ce qu'il est advenu de Berthe et de ses trois comparses?
Eh bien, le clan Remno va être attrapé.
Il va être attrapé.
Voilà, lors de leur dernier cambriolage, puisqu'après, ils seront mis en prison. Donc, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on met une identité, parce qu'avant, on ne les appelait pas le clan Remno. On l'appellera le clan Remno une fois qu'il sera attrapé. Mmh. Les gens ne connaissaient pas l'identité de Berthe. Une fois qu'ils vont être attrapés, pendant leur dernier cambriolage, et c'est là où justement le monde découvrira les premières images du clan Remno. Donc assez impressionnant de les voir, ils étaient absolument tous complètement rasés, crâne complètement rasé, très très lisse, voilà, comme une genre de coquille, voilà, très brillante.
Oui.
Et voilà, c'est là où on découvre finalement, lors de ce dernier casse du clan Remno.
Quelle est l'erreur qu'a fait le clan lors de ce dernier vol pour se faire attraper?
C'est pas une erreur. Enfin, on parlait justement de l'époque où justement on va arrêter de mettre des serrures sur des grandes œufs. Finalement, c'est un homme qui possédait un œuf de Fabergé. Voilà, là, on était en pleine razzia des œufs de Fabergé. À cette époque-là, le clan s'attaquait à tous les œufs de Fabergé. Et un jour, du coup, il y a cet homme dont j'ai oublié le nom qui en possédait un. Un russe.
Gustave, il me semble.
Gustave,
son nom
m'échappe aussi.
C'est vous qui étiez au musée, non?
Oui, je me souviens du prénom Gustave que j'ai lu lire dans un écrit.
Cet homme sans histoire, enfin, qui était très riche sûrement, qui possédait un œuf Fabergé, qui s'appelait Gustave, et qui lui décida de ne pas protéger l'œuf. Voilà, il le mit dans son jardin, sur l'herbe, il le posa là, et en fait, le clan Remno est arrivé et a vraiment fouillé partout pour se rendre compte que l'œuf était là, sur la pelouse. Et alors, lorsque le clan Renmo a été attrapé, il était tout simplement endormi sur la pelouse de Gustave, puisqu'ils avaient passé la nuit ici à se demander où était l'entourloupe, finalement, où était la serrure, quel était le code à craquer.
C'est vrai que dans la maison, ils ont ouvert toutes les portes, toutes les serrures, les verrous, les cadenas, les plus petits qui soient, ils ont tout ouvert.
Tout retourné pour trouver l'œuf.
Tout retourné, alors que l'œuf était là, dans le jardin.
Oui.
Donc on a retrouvé finalement le clan Remno assoupi près de l'œuf de Fabergé dès le lendemain matin, où ils ont été arrêtés par la police russe.
C'est un peu dommage quand on est un clan de cette envergure de se retrouver arrêté au milieu de sa sieste matinale dans le jardin de ce monsieur. Donc on a dit 12 000 œuvres en tout. Est-ce que le propriétaire de la poule se manifeste à la fin? Ou est-ce qu'on sait s'il y a eu, malgré tout, transaction?
Vous le savez très bien, comme moi, Guillaume, la poule aux œufs d'or, aujourd'hui, ça reste encore aujourd'hui une légende.
C'est d'ailleurs ce qui donne son nom à l'expression.
Oui, l'expression la poule aux œufs d'or.
La poule aux œufs d'or, tout simplement. Trouver la poule, chercher la poule aux œufs d'or, alors qu'elle n'existe pas.
Elle n'existe pas aujourd'hui. On sait toujours pas.
Mais alors, d'où vient cette légende que le clan Remno continuerait de sévir? Est-ce qu'on parle des mêmes personnes? Est-ce qu'on parle d'autres personnes? Est-ce qu'on parle toujours de la recherche de la poule? Est-ce que c'est autre chose
C'est là où la police n'a pas fait fort, c'est que ils les ont enfermés. Sauf que comment on ferme une porte de prison? Avec une serrure.
Autant les propriétaires de lieux culturels, de musées s'étaient préparés depuis des années à lutter contre le clan Remno, autant le secteur pénitentiaire n'y s'était pas préparé.
Ils étaient complètement à la ramasse en termes de serrure. Et du coup, en fait, quand le clan Remno... alors, ils sont déjà passés devant la justice, là, ils ne rigolaient pas. Ils sont arrivés en prison, ils ont commencé à rigoler. Franchement, ça datait des débuts des années 1800, quoi, en termes de serrure.
Donc le clan Remno s'échappe au bout d'un jour.
Un jour.
Ils ont juste pris un repas à la prison de Dresde pour goûter.
C'était quoi
C'était des lentilles.
Des lentilles avec une saucisse de l'Est.
Anticorail saucisse, voilà.
Ouais, classique, ça les a pas convaincus.
Non, ils sont partis le soir même. Et effectivement, le clan a cessé ses activités quand même, tout de même, après cette affaire.
Mais en fait, le clan a cessé ses activités pas tellement à cause de la prison, mais du choc que ça a été de trouver l'œuf dans le jardin.
Bah, ça a été, en fait, le truc, c'est que on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé dans ce jardin. On ne sait pas ce qui s'est passé lorsqu'ils ont trouvé l'œuf. On les a juste retrouvés le lendemain matin. Ce qu'il y a, par contre, les images. Donc, on avait les premières images du clan. Lorsqu'ils se font emporter par la police, lorsqu'ils se font réveiller, on voit sur leur visage, on voit des sourires. On voit même sur la joue de Hulk, on voit une larme qui coule, des sourires. Et l'entièreté du clan Remno se tient par la main.
Oui.
Lorsqu'ils sont emportés par la police, ils se tiennent comme ça, par la main. Et en fait, on ne sait pas ce qui s'est dit. On ne sait pas pourquoi ils arrêtent leurs activités, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça a inspiré forcément des gens. Voilà. Et aujourd'hui, le clan Remno, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas? Oui. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est plus Berthe, ce n'est plus Fred. Ce n'est plus Hulk. Ce n'est plus Franck, pardon. Mais leur héritage, voilà, leur rêve, lui, vit toujours.
Le rêve du clan Remno, ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré au clan Remno. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute, et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.